Eu!
Aujourd'hui, on se replonge dans la galaxie. Et plus précisément, dans notre galaxie, la Voie lactée. On va s'approcher de la constellation d'Orion, et plus précisément dans son bras, où se situe notre système solaire. Nous avons déjà pu parler de notre système solaire. Un soleil, 8 planètes, 2 grandes catégories. D'un côté, les telluriennes, et de l'autre, les joviennes. Entre ces deux catégories de planètes, et donc, plus précisément, entre Mars et Jupiter, on trouve une ceinture, et c'est une ceinture d'astéroïdes. Plus loin, au-delà de Neptune, donc à la limite de notre système solaire, on trouvera une autre ceinture, aussi composée d'astéroïdes. Il s'agit ici de la ceinture de Kuiper. Mais qu'est-ce que c'est qu'un astéroïde ? Un astéroïde est un corps céleste ou un astre. C'est-à-dire que c'est un objet relatif au ciel, autrement appelé un objet céleste. Un astre doit être visible de la Terre, donc le Soleil, les étoiles, la Lune ou encore toutes les autres planètes sont des astres. En revanche, la Terre, qui ne peut pas être vue d'elle-même, n'est pas considérée comme un astre. Mais pour les astéroïdes, alors, qu'en est-il ? Eh bien, c'est un astre, oui, composé de métaux de tailles variées qui se déplacent dans l'espace et qui tournent autour du Soleil. Un astéroïde est une catégorie d'astres, donc il n'est ni une planète, ni une lune. La taille d'un astéroïde peut varier de moins d'un centimètre à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Plusieurs types ainsi que plusieurs groupes d'astéroïdes existent. On débutera avec la ceinture principale que l'on a déjà évoquée plus tôt, cette ceinture entre Mars et Jupiter, qui contient d'ailleurs Cérès, vue aujourd'hui comme une planète naine. En avril 2019, soit il y a environ un an, on comptabilisait 720 000 astéroïdes qui composaient cette ceinture. Nous avons aussi le groupe appelé les Troyens de Jupiter et aussi un autre groupe appelé les astéroïdes géocroiseurs. Ces deux catégories, ces deux grands groupes, sont composés d'astéroïdes venant de la ceinture principale, mais qui ont été influencés par la force gravitationnelle de Jupiter ou de Mars. Les astéroïdes influencés par la gravitation de Mars sont les géocroiseurs. Et ces derniers, on les connaît bien. Pour cause, les astéroïdes géocroiseurs sont connus pour leur orbite qui croise celle de la Terre. Une orbite est le parcours fait par un astre ou par la Terre autour du Soleil. Pour parler correctement, on parlera même d'ellipse orbitale, formant en général un cercle ou une forme arrondie, non symétrique, autour du Soleil. Donc, même si l'axe orbital de notre système solaire reste le Soleil, chaque orbite n'est pas forcément parallèle et peut être amenée à se croiser. Et c'est ce qui se passe avec certains astéroïdes déviants, appelés les astéroïdes géocroiseurs. L'intérêt médiatique parfois très fort porté sur les astéroïdes géocroiseurs est lié très souvent à la crainte de les voir entrer en collision avec la Terre. Ce qui arrive indéniablement parfois. Et alors, les astéroïdes deviennent des météorites. On compte chaque année environ 100 000 tonnes de météorites arrivant à atteindre la Terre. Pour revenir à nos grands groupes d'astéroïdes, nous avons aussi le groupe des Centaures, qui sont là plutôt des planètes mineures gravitant entre les orbites des planètes géantes gazeuses, soit Jupiter et Saturne. Ici, on sera plutôt sur des objets faits de glace. Il est possible qu'il s'agisse d'objets de la ceinture de Kuiper perturbés gravitationnellement et dont l'orbite a croisé celle de Neptune. Un peu comme le phénomène observé entre la ceinture principale et les influences de Mars et de Jupiter de l'autre côté. Enfin, on a la fameuse ceinture de Kuiper. Et d'autres objets transneptuniens, soit des objets qui se situent au-delà de Neptune. On a évoqué ici le fait qu'un astéroïde pouvait changer de dynamique et donc se faire influencer par d'autres forces gravitationnelles. Mais la force gravitationnelle n'est pas le seul paramètre à prendre en compte lors du calcul de leur trajectoire. En effet, pour les plus petits de ces objets célestes, le Soleil et donc le rayonnement joue aussi un rôle. Comme pour les planètes tournant autour de cette étoile qu'est le Soleil, les astéroïdes ont eux aussi une face illuminée, éclairée, et une face à l'ombre. Et ce rayonnement exerce une certaine force, une certaine pression sur les objets. Surtout ceux de petite taille. Un paramètre encore aujourd'hui très compliqué à calculer, mais qu'il ne faut pas lésiner. Enfin, on pourrait aussi se demander si les anneaux de Saturne ne seraient pas eux aussi composés d'astéroïdes. Car même si de la Terre, on dirait des disques continus, ces disques sont en fait constitués de particules de roche et de glace. Et en effet, dans la plupart des cas, ces morceaux de roche et de glace sont probablement des morceaux d'astéroïdes qui se sont désintégrés avant d'atteindre la planète et ayant choisi, entre guillemets, de rester en orbite autour de Saturne. Le premier astéroïde est découvert fortuitement par Giuseppe Piazzi, directeur de l'observatoire de Palerme. Le 1er janvier 1801, alors qu'il mène des observations dans la constellation du Taureau, afin d'établir un catalogue stellaire, il repère un nouvel astre. Le lendemain, il constate avec surprise que celui-ci s'est déplacé vers l'ouest. Il suit alors le déplacement de cet objet pendant plusieurs nuits. Son collègue, Carl Friedrich Gauss, utilise ses observations pour déterminer la distance exacte de cet objet inconnu à la Terre. Et ses calculs situent l'astre entre les planètes Mars et Jupiter. Aujourd'hui, on sait qu'il se trouve donc dans la ceinture principale d'astéroïdes. Et pour ce premier astre découvert, Piazzi le nomme Cérès. Entre 1802 et 1807, trois autres objets sont découverts sur des orbites voisines. Pallas, Junon et Vesta. Nous n'avons pas pu évoquer le nom des orbites et tous les orbites différents de la galaxie. Il sera alors le sujet d'une nouvelle chronique découverte de la galaxie. Revenons-en à nos découvertes des objets célestes. Les quatre nouveaux corps sont alors considérés comme de véritables planètes. Entre 1802 et 1807, je le rappelle. Le terme de petite planète est généralement employé. Cependant, dès 1802, William Herschel propose l'appellation d'astéroïde, qui signifie littéralement en forme d'étoile. Et ce, à cause de leur aspect au télescope différent de celui en forme de disque régulier des autres planètes. Avec de plus leur petite taille ou l'inclinaison orbitale élevée de Pallas, il s'agissait selon lui d'objets du système solaire à distinguer des planètes. Il faudra attendre 1845 pour qu'une nouvelle petite planète soit découverte. Il s'agit d'Astrée, découverte par Carl Ludwig Encke. Dès lors, les découvertes ne cessent de se multiplier et l'appellation proposée par Herschel s'impose « astéroïde ». L'étude des astéroïdes fut longtemps délaissée par les astronomes. Nous les connaissons maintenant depuis plus de 200 ans, mais ils étaient déjà considérés comme les rebuts du système solaire. On sait maintenant que les astéroïdes sont une clé importante de la compréhension de la formation du système solaire, et c'est pour cette raison que les astronomes montrent de plus en plus un grand intérêt envers ces objets. Afin de terminer sur une note légère d'humour, je vous propose d'écouter Clash d'astéroïdes avec Mister V.
T'es qu'un petit caillou, tu dépasses pas la taille d'un gravillon. On pourrait s'y tourner avec un battement d'aile de papillon. Prends pas la grosse tête, autour dessus c'est la queue d'une comète. Je te trouve gênant comme quelques grains de sable au fond d'une chaussette. Je vais te mettre binable en live sur périscope. T'es tellement petit que pour t'observer on a besoin d'un télescope. Quand je pense au temps perdu par les chercheurs qui t'ont épié, alors que pour t'arrêter il fallait juste une pince à épiler. T'es le plus faible
de tous les astéroïdes.
Tu veux battle avec nous?
On prend une cuillère d'astéroïdes.
Si la Terre était un ovule, tu serais pas le bon spermatozoïde. J'aurais plus mal au cul avec un bon vieil hémorroïde. T'es qu'un dieu des filles, un genre de SDF sidéral. T'es à la rue, t'inquiète, je vais appeler Samu spatial. Bah oui mon gars, j'aurais pas dû nous clasher. Vas-y casse-toi, viens profond dans ta voie lactée.
Tu vas te prendre dans la gueule, mes 10 ans d'études d'astronomie. Je suis pas le premier à découvrir Giuseppe Piazzi. Tu rentres dans mon orbite, tu te prends pour un
géocroiseur. J'ai
plutôt l'impression que t'es un
géocroiseur.
Si je jette un œil à ta classification spectrale, je me rends compte que t'es de type C. Même pas mal. Big up à mon prof de chimie, monsieur Lo.
histoire est devenue grand. Yeah, bébé Big Benzen, lourd. Big, Big Benzen, ça fait Big, Big Benzen. Quand je fais de la chimie, je prends mon Big, Big Benzen. Ah.
Cockpit, check la grosse bitch, il me faut comme solo sans être un cosplay. Tu sais qu'avec des petits mots, je fais des grosses blés. Pour un astéroïde, t'es bien trop lasté. Personne t'agarde comme le foot féminin. Ta mère a honte de la femme et t'es le plus vilain. Du coup, je te monte en l'air avec la droite de Krill. Ta meuf la monte en l'air, rien qu'elle crie mon prénom. Un carnaché, est-ce que tu veux asséner? Fais pas clasher, je suis la vodka, t'es le panaché. Je vais pas te lâcher sans que t'es ramassé. Je suis trop doué à côté, moi Michael Phelps c'est pas nager. Donc je suis désolé, t'as annoncé que t'es mort dans tes dans la TGT. Je suis super visible pour faire faux, tu rateras les lancers. Tu veux me partir et ne plus y penser. Sur ta tombe, c'est là que l'on va danser.